Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 17 de ITcast du 11 septembre 2015. C'est la rentrée et j'ai retrouvé Stanislas pour un épisode en deux parties. Donc une première partie actualité où on va parler d'Azure, de Windows, d'Office. Et puis vous verrez, il sera question de voitures anciennes. Dans une deuxième partie, eh bien, après les voitures anciennes, on va s'intéresser au cargo, au train et au camion, puisque évidemment, on va parler de containers. Et ceci à l'occasion de la sortie de la Technical Preview 3 de Windows Server 2016, avec laquelle vous pouvez dès aujourd'hui expérimenter avec cette nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, un épisode un petit peu long, 1h20, c'est pas mal, mais ça valait le coup pour un épisode de rentrer un petit peu dans le détail dans ces nouvelles technos qui vont nous occuper, j'en suis sûr, toute l'année. Tout de suite, on retrouve Stanislas pour l'actualité de la rentrée. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 17 de ITcast. On est le vendredi 11 septembre 2015 et je suis en direct avec Stanislas. Salut Stanislas.
Bonjour Pascal.
Et on va vous, pour cette rentrée, hein, c'est le premier épisode depuis longtemps, hein, je crois que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait d'épisode, hein, après ces 2 mois d'été. Donc petit épisode de rentrée tranquille, où on va parler un petit peu de l'actualité de l'été justement, de cette rentrée. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au mois d'août et en ce début septembre. Et puis une fois qu'on aura fait un rapide tour de l'actualité, on vous parlera un petit peu d'un sujet un petit peu nouveau dans le monde des technologies Microsoft, puisqu'il s'agit des containers. Donc Stanislas, première actualité de l'été, évidemment, on ne peut pas passer à côté, le 29 juillet.
Sortie officielle de Windows 10.
Voilà,
Windows 10 pour PC, Windows 10 pour tablette, Windows 10 pour hybride. Donc ça y est. On l'a tous sur nos postes. Et donc, vous avez un an à partir donc, du 29 juillet pour faire une mise à jour gratuite de votre Windows 10, de votre Windows pardon, 7 ou Windows 8 ou Windows 8.1 familial ou professionnel à destination d'une édition Windows 10, là encore familiale ou professionnelle.
Voilà, donc on ne va pas refaire toute l'histoire, hein, mais si vous avez une version entreprise, il faut passer par vos programmes de volume licence classiques pour faire des mises à jour. Et puis le 29 juillet marque également la date de sortie de ce qu'on appelle les nouvelles branches de mise à jour de Windows, donc la CB, la CBB et la LTSB. Hein, c'est peut-être pas le lieu pour entrer dans ce détail-là, mais on en parle à plusieurs occasions, n'hésitez pas à regarder sur le site, et peut-être que je mettrai un pointeur également pour vous permettre de creuser un petit peu ces notions de branches de déploiement, de branches de mise à jour. À ce sujet-là, d'ailleurs, on a enregistré avec toi, Stan, hein, hier, on a filmé un cours MVA sur le sujet, spécifiquement sur le sujet, qui sortira dans les mois qui viennent.
Également, il y a eu un petit enterrement cet été, le 14 juillet. On a dit officiellement au revoir à Windows Server 2003 et 2003 R2 hein, dans leur support qui s'est terminé. Donc désormais, ces systèmes ne sont plus supportés dans le sens où il n'y a plus de correctifs, ni pour corriger des bugs, ni pour corriger des vulnérabilités de sécurité. Donc voilà, au revoir 2003, merci, tu as été bien utile.
Voilà. Bon,
pour ceux qui sont un peu en retard, il y a un cours MVA qui vous aide à faire la migration de 2003 vers quelque chose de plus récent, au moins pour les briques d'infrastructure de base. On vous mettra le pointeur également, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu en retard.
Exactement. Donc à propos de Windows client, puisqu'on était sur Windows 10, à l'époque de Windows 8, on avait un petit frère à Windows qui s'appelait Windows RT. Pour les processeurs ARM.
Exactement.
On n'a pas de version RT donc pour Windows 10, vous l'avez peut-être remarqué. Et donc ce qui a été annoncé, hein, c'est qu'on ferait une mise à jour de Windows RT 8.1 pour lui apporter quelques petites évolutions cosmétiques pour qu'il ressemble un petit peu, qu'il se rapproche un petit peu des fonctionnalités de Windows 10. Donc cette mise à jour devrait être disponible en septembre, c'est ce qui a été annoncé en tout cas par Gabe Hall, courant de l'été, je vérifie simplement la date, et il a tweeté ça le 15 juillet, voilà. Donc, que l'update 3 de Windows 8.rt serait disponible en septembre.
Ça rappelle un petit peu pour ceux qui avaient des Windows Phone 7 qui ne se mettaient pas à jour en Windows Phone 8, l'édition 7.8,
je crois, ouais.
Ouais, qui effectivement refaisait un écran d'accueil qui ressemblait à l'écran d'accueil de Windows Phone 8 sans avoir toutes les fonctionnalités de Windows Phone 8. Voilà. C'est juste, effectivement, comme tu l'as dit, un petit peu de cosmétique sur l'écran d'accueil et menu démarrer.
Voilà, faut pas se faire trop d'illusions hein, sur l'avenir de ces tablettes ARM.
Leur futur, c'est principalement la collection, en fait.
Ah, je crois que ça va prendre de la valeur.
Effectivement, oui, pour les collectionneurs, dans quelques années, ils pourront dire, regarde, ça, c'est une tablette Windows sur de l'ARM. Sur un système qui aurait été peu diffusé.
Donc si vous avez des surfaces RT dans un emballage pas ouvert, surtout ne l'ouvrez pas. Ça peut prendre de la valeur.
C'est pas ouvert.
Tiens, tu parlais de téléphone avec Windows Phone 7.8. À propos de Windows 10 mobile, tout le monde, tous les insiders, donc ceux qui font partie du programme Insider pour avoir les builds préliminaires de Windows 10 mobile, attendent impatiemment une nouvelle build depuis la dernière qu'on a eue courant début août, je crois, ou mi-août. Uh-huh. Donc ça fait quand même quelques semaines. Tout le monde s'impatiente un peu, ça vient. Les bugs qui bloquaient la sortie des dernières builds passent d'être corrigés. La build actuelle est en train d'être testée à l'interne chez Microsoft, donc ça ne devrait pas tarder. Donc tout ceci est résumé dans un article de Gabe Holt, justement, qu'il a sorti cette semaine, hier, je crois.
D'accord.
Donc ça vient. Un petit peu de patience, ça vient d'ici quelques jours.
Tiens, d'ailleurs, si on est sur Windows 10, on pense à Surface. On a récemment annoncé, effectivement, des accords avec IBM. Non, pas avec IBM, avec Dell et avec HP, qui vont être également des revendeurs de Surface dans le monde de l'entreprise.
Ouais. Étonnant, non ?
C'est intéressant comme approche, d'autant que l'annonce a été faite le jour ou la veille, en fait, de la keynote d'Apple, en fait, où ils ont présenté l'iPad Pro. Keynote, au passage, d'ailleurs, où on avait une démonstration faite par Microsoft d'Office sur iPad.
Eh oui, moment historique.
Voilà.
On a autre chose à dire sur le poste client, sur Windows 10 et tout ça ?
Non, on peut aller faire peut-être un petit tour du côté du nuage.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans Azure en cette rentrée ?
Il se passe toujours des choses dans Azure. Tous les mois, c'est un florilège de nouveautés. Hein. Peut-être que moi, une des annonces qui me marque, parce que je fais de l'infrastructure sur Azure en septembre, c'est l'arrivée des machines virtuelles GS.
Alors, est-ce que ça a un rapport avec les voitures ?
Pas plus que les machines virtuelles DS, Pascal.
D'accord.
Donc, alors, si. Quand tu as une... Dans les voitures, on est tous d'accord que la DS est mieux que la GS.
Exactement, oui. Oui, quand même.
Bon, petit truc et astuce, dans Azure, c'est l'inverse. Ah. La GS est mieux que la DS. Donc, pour faire plus sérieux, les séries G... De machines virtuelles dans Azure sont des machines virtuelles, c'est les plus puissantes en fait qu'on puisse avoir. Donc G, en fait, l'origine c'était Godzilla en fait dans les dons de code chez nous. Et donc ces machines en série G sont des machines qui peuvent aller jusqu'à 32 cœurs CPU, 448 gigas de RAM, quelques centaines de gigas également en SSD sur les disques temporaires. Et jusqu'ici, donc, enfin, les séries G, en fait, pour les disques de données additionnels qu'on rajoute, on est sur du stockage basé sur du rotatif. Et donc, potentiellement, on n'exploitait pas à fond, entre guillemets, la full patate, comme on dit par chez nous. Et donc, désormais, on va pouvoir avoir sur des séries G du stockage dit premium, qui est du stockage basé sur du SSD. Donc, une série GS, en fait, c'est une série G avec du stockage premium.
Voilà. D'accord. Donc, non seulement on a... beaucoup de RAM et beaucoup de CPU et beaucoup de volume. Enfin, beaucoup de RAM et CPU, en fait. Mais en plus, on a le SSD sous le stockage principal, comme les premiums.
Le stockage data, effectivement.
Ça va être terrible.
Ouais, parce que c'est assez terrible, parce qu'on peut quand même monter à 64 Tera de stockage. Donc, 64 téra de stockage SSD, je te laisse imaginer un petit peu la puissance. Pour les processeurs, c'est des séries Intel 5V3, donc c'est les dernières générations. Le stockage en I/O par seconde, on va pouvoir avoir jusqu'à 80 000 I/O par seconde sur du stockage de machines virtuelles. Donc juste pour ramener, faire un pendant relatif, une enveloppe d'un compte de stockage standard, l'enveloppe globale d'un compte de stockage, c'est 20 000 I/O par seconde. Et ouais. Là, on est en train de parler qu'en fait, avec ce type de stockage-là, sur les séries GS, on sera déjà à 80 000. Et ça représente à peu près 2 gigaoctets secondes de bande passante sur le stockage. 2 gigaoctets secondes de bande passante sur le stockage, ce qui est plutôt assez énorme.
C'est énorme. Donc évidemment, pour accompagner tout ça, ben, si les machines doivent communiquer entre elles à ce rythme-là, ben, il faut du réseau aussi rapide. Et donc, on annonce un débit maximum de 20 gigabits par seconde au niveau du réseau sur ces VM.
Ouais. Ce qui, du coup, correspond à peu près à deux fois plus que la plus grosse des autres machines dans tous les autres fournisseurs de cloud. Donc, 20 gigabits de bande passante sur une VM, c'est quand même assez... C'est quand même assez gros. Alors, du coup, on se dit, bah, ça sert à quoi des engins de guerre comme ça ? Eh ben, c'est idéal en fait pour toutes les applications qui ont à la fois besoin de beaucoup de compute et d'accès stockage super intensif. Donc, ce sera plus des choses comme des bases de données SQL, MySQL ou des bases de données NoSQL comme MongoDB ou des gros data warehouse. Donc là, c'est vraiment orienté pour ce genre de choses, quoi. C'est utilisable également sur des applications telles que Exchange ou de l'ERP comme un Dynamics. ERP ou CRM, je sais pas, d'ailleurs, je sais jamais. Donc en gros, c'est effectivement des applications qui sont très consommatrices de CPU et de stockage, d'IO de stockage.
Cool.
Donc voilà. En résumé, on a 5 séries GS, donc de la GS1 à la GS5, donc ça va aller de 2 corps CPU à 32 corps CPU. Ça commence à 28 Go de RAM et ça termine à 448 Go de RAM. Ça commence à 5000 I/O par seconde maximum par disque jusqu'à 80 000. Voilà. Et donc, alors à noter par contre, c'est que les séries GS ne sont pas disponibles dans un premier temps sur l'ensemble des data centers de Microsoft. Donc il faut des data centers où il y ait du stockage premium, d'accord. Donc c'est en train de se généraliser. Et donc du coup, on va dire d'ici les prochains mois, on aura à peu près toutes les régions qui seront concernées. Pour l'instant, les séries GS sont disponibles sur les régions Azure, Ouest USA, Est USA 2 et Ouest Europe. Alors Ouest Europe, tu nous rappelles quel data center c'est ?
Alors l'Europe de l'Ouest, pour nos amis américains, c'est Amsterdam.
Voilà. Donc si on veut bénéficier de ces machines-là, il faut également tenir compte aujourd'hui de la géographie et des zones Azure où on fournit ce service.
Donc si on a les moyens, il ne faut pas s'en priver.
Les moyens ou les besoins, parce que c'est...
Et les besoins. Je suppose qu'il faut aussi les moyens.
L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, pour revenir sur le stockage premium, ça continue en fait son expansion, le stockage premium. Donc, ça avait commencé à être disponible à partir du mois d'avril 2015. Et désormais, le stockage premium, on l'a dans les régions Ouest US, Est USA 2, Ouest Europe, Est China, South East Asia, Japan West, Japan East and Australia East. Et ça va arriver, donc c'est planifié pour Q4, donc c'est-à-dire les trois derniers mois de l'année 2015. C'est prévu en Central US, en East Europe, en North Europe. Donc ça nous intéresse, North Europe c'est Dublin.
Oui, c'est Dublin.
Et en East Asia. Donc c'est en train d'arriver. Et donc chaque fois qu'on va avoir du storage premium qui va arriver dans une région, eh bien très rapidement après, on aura du coup les séries GS. Donc ça veut dire que les séries GS devrait probablement arriver sur la zone North Europe, c'est-à-dire Dublin, probablement sur la fin de l'année.
On imagine les racks de SSD en train d'être installés dans les data centers.
C'est beau. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle dans le cloud en cette rentrée ? On a la disponibilité générale, donc la GA, d'un produit qui s'appelle Advanced Threat Analytics, donc ATA. Analyse de menaces avancées ou avancées de menaces. Donc ce ATA, ça provient en fait du rachat d'une société qui s'appelait Aorato par Microsoft l'année dernière, et qui c'est un produit qui permet l'analyse de logs et l'analyse de l'activité, des activités en général suspectes, activités d'utilisateurs suspectes sur vos réseaux internes. Ça a été fait en réponse à toutes ces attaques qui sont assez fréquentes chez nos grands comptes, attaques entre guillemets cyberattaques, hein, ou APT, Advanced Persistent Threat, etc. Dans lesquelles des attaquants externes à l'entreprise prennent le contrôle du réseau, de l'Active Directory, et puis s'installent tranquillement pendant des périodes assez longues, parfois plusieurs années, et espionnent les données de l'entreprise. Et donc, comment détecter ce genre d'attaque ? En général, ce ne sont pas les analyses de log traditionnelles qui permettent de détecter ce genre d'attaque, hein, mais ce sont plutôt des analyses comportementales. Par exemple, le jour où tel compte utilisateur se met à se connecter sur le réseau d'entreprise depuis plusieurs points du monde dans un temps très court, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. C'est que peut-être que ce compte a été détourné, volé, et est utilisé pour essayer de pénétrer le réseau de différents points du réseau. Donc ça s'appelle ATA. Ça consiste à installer des agents évidemment sur les contrôleurs de domaine pour analyser tout ce qui se passe sur vos contrôleurs de domaine ainsi que les logs. Et puis c'est hébergé dans Azure, ça utilise des techniques de machine learning et ce genre de choses. Donc c'est aujourd'hui en General Availability. Donc vous pouvez télécharger la version d'évaluation sur le site de version d'évaluation classique et puis l'installer pour l'évaluer.
Et bah du coup, tant qu'on est sur la sécurité, les identités, etc., il y a un truc qui est arrivé à peu près début août, concernant Active Directory, Azure Active Directory, pardon. Et en fait, on a une solution qui s'appelle... Alors... comment ça s'appelle ce truc-là ? Azure AD Privilege Identity Management. Donc c'est un composant qui permet normalement en fait de faire du just-in-time admin notamment, et de dire à temps complet les administrateurs d'Azure Active Directory, les global administrateurs ne seront pas global administrateurs à 100% du temps. Ou ça permet de faire de la délégation d'administration et de donner des jetons entre guillemets d'administration qui sont des jetons temporaires, dire telle personne a besoin pendant 20 minutes d'avoir le privilège global admin par exemple, et puis une fois que les opérations sont faites ou le temps est passé, le jeton est retiré pour éviter effectivement d'avoir à 100% du temps tous les privilèges sur l'annuaire. Donc on est vraiment sur du just-in-time admin. Donc on peut installer ce composant qui s'appelle Azure AD Privilege Identity Management via le marketplace d'Azure, et puis un petit peu jouer avec. J'encouragerais très fortement à ne pas jouer avec de la production. J'ai testé pour vous un petit peu tôt, je m'y suis... et j'ai eu un effet de branche sur laquelle je me suis scié. Donc pas peut-être à utiliser, à tester sur votre Azure AD de production, mais sur un tenant de test. Il n'y a pas de souci pour commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne. L'idée est plutôt bonne quand même de ne pas avoir des gens logués sur l'Azure Active Directory avec tous les privilèges à temps plein. On comprend, hein, on est en train de pousser le même type d'approche dans Active Directory de Windows Server 2016, d'avoir ces notions de just-in-time admin et de rester en fait administrateur avec les pleins pouvoirs que lorsqu'on a besoin de faire des opérations avec les pleins pouvoirs.
Tout à fait. C'est la moitié de l'effort à faire en termes de sécurité, c'est de diminuer le nombre d'administrateurs et des actions faites en tant qu'administrateur. Oui.
Exactement.
L'autre moitié étant les mises à jour.
Oui, tout à fait.
On ne répétera jamais assez.
Voilà. Du coup, tant qu'on est sur les identités, on pourrait peut-être dire également que Microsoft Identity Manager 2016 est en version finale.
Tout à fait, oui.
Donc en Global Available. Donc ça, c'est une solution qui va vous permettre de faire de la synchronisation multi-annuaire à destination notamment d'Azure Active Directory. Ça permet de faire du méta-annuaire. Et c'est une solution désormais qui est packagée notamment avec l'édition premium d'Azure Active Directory. Donc si vous êtes client Azure Active Directory, vous avez automatiquement les licences d'utilisation de Microsoft Identity Manager 2016, qui est une solution qui, que je le rappelle, s'installe sur, sur site on-premise pour faire ces opérations effectivement de synchronisation d'annuaires, de consolidation, et pour synchroniser également des annuaires tiers à destination, donc des serveurs LDAP notamment, à destination d'Azure Active Directory.
Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau d'Azure comme nouvelle ? On a quelque chose que dont tu parles beaucoup dans pas mal d'événements, qui est la disponibilité générale du backup de machines virtuelles Azure.
Oui, on a pas mal de choses aujourd'hui sur le backup. On peut effectivement backuper des machines qui tournent sur de l'Hyper-V ou du VMware ou autre dans Azure. Il restait jusqu'ici, on n'avait pas de solution pour sauvegarder les machines virtuelles qui tournaient dans le IaaS d'Azure. Donc on a une solution qui est apparue il y a quelques mois, mais qui était encore en version préliminaire, qui permet effectivement de faire des snapshots, hein. Donc, mais c'est des backups des machines virtuelles qui sont exécutées dans Azure, donc ça permet effectivement de revenir en arrière si une machine virtuelle a été corrompue, abîmée, une mauvaise installation, etc. Et donc désormais effectivement le service est finalisé et donc disponible à l'usage avec un support à 100% et du coup une facturation derrière.
Cool, et sachez que par exemple, la machine virtuelle qui héberge ce podcast est sauvegardée par ce moyen-là depuis que c'est disponible en version préliminaire. Quoi.
Voilà. Dans les versions, on parle de préliminaire, on a SharePoint Server 2016 dans sa version Preview IT qui est disponible en test dans Azure. Donc c'est la prochaine version de SharePoint que les IT pourront installer à demeure ou dans une machine virtuelle sur Azure. Donc là, l'avantage, effectivement, avec ces previews disponibles sous la forme d'images dans Azure, c'est qu'on peut très rapidement déployer la solution, la tester, sans avoir effectivement à passer toutes les phases d'installation de prérequis, etc., base de données, ce qui est un petit peu long pour faire du test des fois. Donc on a des images comme ça qui sont prêtes de version preview. De la même façon, on a également des versions préliminaires de Windows Server 2016, hein, Technical Preview 3, qui sont disponibles dans Azure. Donc c'est parfait pour gagner du temps pour tester. Puis on en reparlera un petit peu tout à l'heure sur la partie container.
Et oui. Quelques petites nouvelles, mais moi qui m'intéresse pas mal, c'est une petite nouvelle qui est passée comme ça au mi-juillet. C'est à propos de Azure Automation. Donc Azure Automation, je rappelle, c'est la possibilité de faire du script PowerShell qui va s'exécuter dans Azure pour faire de l'automation, donc de l'automatisation sur vos machines virtuelles, sur vos environnements, etc. Avec des ponts évidemment avec des ponts maintenant qui permettent d'aller orchestrer, d'aller automatiser des éléments qui sont dans votre data center et réciproquement depuis votre data center d'aller automatiser Azure Automation à distance. Donc la nouveauté là-dedans, c'est qu'on a inclus des commandes, des modules PowerShell pour pouvoir directement envoyer des commandes SSH à des machines Linux. Donc si vous avez des environnements hybrides, et c'est quasiment le cas pour la plupart des clients qui sont dans Azure, qui ont des VM dans Azure, vous pouvez directement envoyer des commandes par SSH à vos hôtes, vos machines virtuelles Linux. Donc ça n'a pas de prix.
SSH, j'ai l'impression qu'on est en train de bien regarder le sujet.
Oui, on a annoncé récemment, avant l'été, qu'on étudiait sérieusement la possibilité d'inclure SSH dans PowerShell, donc de faire un pont et de pouvoir aller directement se connecter en SSH à des machines Linux, et réciproquement, de pouvoir recevoir des connexions SSH. D'accord ? Donc depuis une machine Linux, d'ouvrir une session SSH sur une machine Windows, et donc d'avoir accès à un shell PowerShell, mais via le protocole SSH. Ce qui, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on attend depuis des années et des années, et si on le voit vraiment cette année ou l'année prochaine, ce sera absolument génial.
Oui, en 2015, on peut encore s'extasier à faire du SSH.
Mais oui.
Non, mais c'est vrai que le mettre nativement dans Windows, ce serait un grand pas, mais c'est aussi ça l'ouverture. Donc c'est plutôt cool. D'accord. On parle un peu de MDM peut-être, avec Intune.
Effectivement, Stanislas, il y a deux nouvelles intéressantes au niveau d'Intune. La première, qui est sortie mi-août, concerne l'enregistrement automatique de machines dans Intune, dans le MDM. Alors pourquoi cet enregistrement automatique ? En fait, le processus, ça va être le suivant. On va rejoindre Azure Active Directory via un mécanisme soit de Workplace Join, soit de le nouveau mécanisme lié à Windows 10 de Azure AD Domain Join. Et quand on va faire ce, quand on va joindre Azure Active Directory via ce biais-là, automatiquement, l'annuaire Azure Active Directory va enregistrer la machine en même temps via le, dans le MDM, donc en l'occurrence Intune. Si ce n'est pas Intune, ce sera le MDM qu'on aura enregistré, qu'on aura déclaré au niveau de l'Azure AD. Ça pourra être un de nos concurrents favoris. Donc l'avantage, c'est que le processus d'enregistrement va être beaucoup simplifié pour l'utilisateur. Il ne sera pas obligé de faire deux opérations, plusieurs opérations un petit peu complexes. Donc on l'a testé pas plus tard que cette semaine et ça marche franchement bien. Donc même une machine qui n'est pas Windows, une machine, on l'a testé même avec un iPad, hein, Stan. L'iPad que tu as enregistré dans le Workplace Join, donc tu as rejoint l'Azure Active Directory et on a retrouvé cette machine dans Intune quelques minutes après. Donc c'est plutôt pratique parce que le fait d'enregistrer automatiquement les machines dans le MDM fait qu'elles vont recevoir automatiquement également des, les politiques de configuration, les politiques de conformité, les politiques de gestion applicative. Et donc au final, par exemple, un scénario qui sera magnifique avec Windows 10, on pourra acheter une machine Windows 10 Pro standard, quoi, sur étagère, on la déballe, on dit la machine appartient à mon entreprise, on s'enregistre avec son compte... son compte professionnel qui est dans Azure AD, et automatiquement la machine va rejoindre l'Azure AD, va intégrer le MDM et donc Intune, va récupérer toutes les politiques de conformité et de sécurité, de configuration, etc., voire des applications également, et vous aurez votre machine qui sera configurée. Et au passage, on peut imaginer également qu'un package de provisionnement à la Windows 10 descend et puis transforme votre machine en machine Windows 10 entreprise. C'est magique tout ça. C'est magnifique. Deuxième nouvelle à propos de Windows, de Microsoft Intune, pardon, c'est le support natif des nouvelles fonctionnalités liées à iOS 9 pour les iPads et les iPhones. Alors pourquoi on a annoncé ça ? On a annoncé ça il y a deux jours, le jour de la conférence Apple, hein, puisque Apple a annoncé la disponibilité pour les développeurs de iOS 9. Et puis la disponibilité pour les utilisateurs finaux d'ici quelques jours ou semaines, enfin c'est tout de suite, très bientôt, là, c'est incessamment. Et donc on a travaillé, nos équipes Intune ont travaillé avec Apple depuis le début des bêtas de iOS 9 pour qu'on prenne en compte, dès le début, dès la sortie, toutes les nouvelles fonctionnalités. En fait, ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de fonctions de type MDM au support de MDM qu'ils avaient déjà dans iOS 8. Et on le supporte nativement dès le début.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre et profiter de pas mal de petites choses d'iOS 9 directement dans Intune. Et je pense, je sais pas si tu as vraiment détaillé, mais toutes les fonctionnalités entreprises sont super intéressantes dans le sens où on va pouvoir en fait autoriser ou pas certaines applications à être exécutées, on va pouvoir désactiver certaines choses un peu spécifiques.
Oui, désactiver la synchronisation automatique dans iCloud pour les photos.
Par exemple, etc.
AirDrop, c'est super intéressant, mais là, on va pouvoir le considérer comme un stockage non managé et donc interdire, par exemple, aux applications managées comme Office de stocker d'envoyer des fichiers dans AirDrop. C'est-à-dire, AirDrop, ça permet de partager instantanément des fichiers avec des gens qui sont tout près, quoi, des gens qui sont dans la même pièce via le Wi-Fi.
Voilà, donc du coup, c'est, fonctionnellement, en termes de sécurité, c'est peut-être un peu moyen. Donc on comprend que tout ça, en fait, soit packagé pour essayer de toujours être dans cette optique du WIMEI. C'est-à-dire, tu peux utiliser ta tablette, mais pour les données d'entreprise, tu ne fais pas n'importe quoi.
Exactement.
Voilà. Du coup, on va passer peut-être à Office 365.
Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur Office 365 ?
Bon, c'est un petit peu comme Azure, hein. Tous les mois il y a des nouveautés. Et puis après, chacun nous on pioche un petit peu dans les trucs qu'on voit passer, qu'on trouve intéressants. Alors dans les petits trucs qui sont rigolos, qui sont passés cet été, c'est la création et désormais la présence de channel IFTTT dédié à Office 365.
Oui, parce qu'on est des grands utilisateurs de IFTTT. Non,
grand, je sais pas, mais
pas mal.
On a testé effectivement. Donc IFTTT, en fait, c'est un service de cloud qui permet d'automatiser des actions, en fait, hein, pour faire simple. Hein. Donc, je ne me rappelle jamais l'acronyme de IFTTT, donc du coup, je vais le rechercher.
If this, then that. IFTTT.
If this and that. OK. Mm. Donc, si telle condition est respectée, alors fais ceci. Et donc, on a fait, on a fait différents, différentes recettes, en fait. Oui, c'est ça, c'est des recettes, en fait, on appelle ça. Qui permettent effectivement d'utiliser Office 365 avec IFTTT. Donc, dans les channels d'Office 365, on aura des choses liées au mail, liées des choses à OneDrive for Business, liées au calendrier, liées au contact. Donc, du coup, par exemple, tu peux dire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, ben voilà. Je vais archiver les photos qui sont prises dans un endroit particulier directement dans OneDrive for Business. Mmh. Parce que tu peux relier en fait plusieurs services entre eux. Donc tu peux dire, tiens, je vais archiver mes photos, les photos d'Instagram dans le OneDrive for Business quand j'ai le tag work qui est mis sur la photo. Je peux... Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Hein. Je peux créer une nouvelle page dans OneNote à chaque fois que j'ai un contact que je crée dans mon Office 365.
Ouais. On peut tout imaginer. Hein,
ouais,
on peut connecter tout... également à des services qui sont très liés à ton téléphone, par exemple, si tu as IFTTT sur ton téléphone.
Ouais.
Tu peux avoir des actions qui sont liées au téléphone. Par exemple, si j'arrive dans tel périmètre, près de mon bureau, par exemple, hop, automatiquement, ça peut faire une action. Ouais. Je sais pas, moi, d'envoyer un mail ou n'importe quoi.
Ouais, tu peux envoyer un email avec ta localisation, effectivement. Mm. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes sur IFTTT dans la partie Office. Et c'est plutôt, il y a un truc assez, je trouve un truc assez rigolo, c'est créer une page OneNote pour traquer en fait les notes d'une réunion. Donc, tu vois, dans ton calendrier, si tu crées une réunion, automatiquement, ça te génère en fait un OneNote derrière pour prendre les notes liées à cette réunion. C'est, voilà. Donc IFTTT, c'est très intéressant à regarder. Du coup, on peut faire pas mal de petites choses avec ça. C'est plus une chose qu'on pense en mode utilisation de services cloud grand public. Mais là, du coup, on a amené cette notion également dans Office 365. Et je pense qu'il y a des choses qui, en termes d'automatisation, peuvent être assez intéressantes pour les utilisateurs. Voilà.
En août, on a également annoncé une preview de Skype for Business pour iOS et Android. C'était la moindre des choses. Hein,
mm-hmm.
D'avoir un client ex-Link, maintenant Skype for Business, sur toutes les plateformes. Et puis, on a annoncé également... Il y a eu un article qui parle de l'association de Microsoft à des fournisseurs comme Evernote, IFTTT, PayPal, Uber, Wunderlist.
Alors là, en fait, on est directement dans tout ce qui est extension de nos solutions Office avec des tiers sous la forme de marketplace ou de add-in. Donc là, typiquement, on est réellement dans, par exemple, l'ouverture d'Outlook.
D'accord.
Donc, Outlook, que ce soit Outlook ou Outlook.com, donc l'interface web, en gros, on ouvre des API, des API d'Office dont on va entendre de plus en plus parler, et ça permet en fait d'intégrer des outils complémentaires directement dans une interface connue. L'idée, c'est que l'utilisateur d'Outlook ou de la version web dans Office 365 ou d'Exchange 2013, on va pouvoir effectivement avoir des extensions comme ça qui seront faites. Voilà. Donc les extensions sont d'abord pour les clients pro. Après, ça va venir pour le grand public. Et donc, par exemple, tu peux avoir comme extension, il y a Uber qui existe. Et donc, ça permet par exemple de commander une voiture depuis un rendez-vous qui est dans le calendrier. Voilà, ça c'est un exemple.
Donc, c'est des add-ins d'Outlook. Hein.
Exactement, c'est des add-ins d'Outlook. Mmh. Donc il y en a d'autres qui sont prévus, qui devraient arriver. Et par exemple, il y a Wunderlist, qui était le gestionnaire de tâches qu'on a racheté récemment, qui donc est disponible sur toutes les plateformes. Là, c'est pareil, on pourra ajouter des éléments à une liste directement depuis Outlook.com. Donc là, Outlook.com aura une extension, il y aura un panneau supplémentaire qui va s'ouvrir. Evernote, c'est pareil, on peut avoir un email et associer derrière une chose. Donc voilà, c'est le futur d'Office, d'Office 35, d'Outlook en public. C'est effectivement de pouvoir rajouter des fonctionnalités tierces directement au sein de la plateforme Outlook et puis autres après, hein, parce qu'on a d'autres choses.
Donc ce qui est génial avec ces add-ins, je ne sais pas le terme exact, d'Outlook, c'est que ce sont des web apps, en fait. Et donc, on va les retrouver dans Outlook, dans le client Outlook 2016, en l'occurrence, le client normal, quoi, le client qu'on exécute sur sa machine, mais aussi dans la version web de sa boîte aux lettres Office 365, qui s'appelle maintenant Outlook on the web ou for the web ou un truc comme ça. Outlook on the web, qui a changé de nom récemment. Donc voilà, comme c'est une web app, on la retrouve également dans la version web, et ça c'est pas mal du tout, ça. C'est vraiment une bonne idée. Une petite nouvelle juste connexe à Office, c'est pas vraiment Office, mais bon, ça sert à partager des fichiers Office, c'est docs.com. On n'y pense pas beaucoup à ce service-là qui est maintenant, je crois, en General Availability.
Maintenant, c'est assez confidentiel comme service. Dans un premier temps, il n'y a pas une énorme communication, ce qui explique que, effectivement, ce ne soit pas ultra connu.
Non.
Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de l'origine de Docs, mais c'était un truc qu'on avait fait en collaboration avec Facebook. Ça permettait dans Facebook d'exposer, en gros, des présentations ou des documents Office. Ça, je pense que c'était l'origine un petit peu de...
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc là, désormais, il semblerait que ce soit... sorti de ce contexte purement Facebook. Et du coup, ça permet comme ça de partager et de collecter des documents, PowerPoint, Word, Excel, des PDF, etc.
Donc c'est un moyen de partager des documents très rapide sans passer par son OneDrive ou d'autres systèmes équivalents.
Ouais, ça me rappelle un petit peu du... un petit peu comme du SlideShare, sauf que là c'est un petit peu plus, ça fait un peu plus moderne, hein, et qu'on n'est pas limité, on est moins limité, j'ai l'impression, dans les formats de documents, bien qu'étant pas forcément un grand utilisateur de SlideShare, mais visiblement on peut repartager des contenus, on peut faire des likes, on peut créer des collections, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil, ça me paraît plutôt intéressant en fait. Ouais. Voilà. Et puis c'est totalement bien intégré, effectivement, Office 365. Donc,
Entre ça et Sway, on a deux belles solutions, je trouve, pour partager du contenu dans une forme sympa.
Ouais, d'après ce que j'ai compris, on peut également mettre du contenu Sway dans docs.com. On peut le partager également via Docs. Donc on va dire que les options deviennent assez larges. Mmh. En tout cas, ça vaut le coup d'y jeter un œil quelques minutes, parce que je pense que ça peut répondre à des problématiques de partage d'informations. Sous un format plutôt sympa.
Alors, on ne peut pas conclure cette partie actualité sans parler de l'annonce d'hier. Donc hier, 10 septembre, on a annoncé que Office 2016 était terminé et serait disponible le 22 septembre. Donc ça y est, la date est fixée. Le 22 septembre, vous aurez Office 2016 disponible en téléchargement, enfin par tous les canaux habituels. Pour les entreprises qui ont des licences en volume, ça sera le 1er octobre que ce sera disponible sur le Volume License Service Center, le VLSC, en téléchargement. Et puis dans l'article du blog d'Office où il parle de cette date de disponibilité, ils annoncent également, c'est Julia White je crois qui a écrit cet article. Et donc elle parle du nouveau mode de servicing, entre guillemets, d'évolution, de mise à jour d'Office. Et je vous le donne en mille, comment ça va se passer? Eh bien ça va se passer exactement comme Windows 10. On va parler de Current Branch, de CB, de Current Branch for Business, CBB, avec exactement le même mécanisme que dans Windows 10. Office as a service, exactement comme le Windows as a service. Bon, c'est plutôt logique.
Du coup, vu qu'on est sur de l'Office qui est souvent relié à de l'Office 365, hein, que ce soit en entreprise ou dans le monde du grand public, parce qu'on a de l'Office 365 pour la maison également, ça veut dire que beaucoup de personnes vont pouvoir du coup faire ce changement de version et du coup après évoluer et faire évoluer leur Office et leur Windows sur une base très régulière et non plus par des grosses marches de migration. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal.
Exactement. Et il nous reste à parler d'une autre actualité de l'été, c'était la sortie de la Technical Preview 3 de Windows Server 2016.
Exactement. Et dans cette Technical Preview 3, on a un truc plutôt assez enthousiasmant qui est en train d'arriver, ou qui arrive. Ouais. Bah, c'est les containers Windows.
Ah, c'est les containers. On a pas mal bossé cet été, hein, Stan, Arnaud et moi.
Ouais, on va pas se le cacher, cet été, on a fait du container.
On a fait du container, exactement, pour essayer, pour déjà maîtriser un petit peu la chose et savoir un petit peu vous en parler quand il le faut. Donc, effectivement, c'est la grosse nouveauté. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a été annoncé il y a longtemps, mais qui n'était pas disponible dans la TP2. Et donc, on attendait un petit peu ça avec impatience. Et c'est disponible, enfin, dans la TP3. C'est disponible dans une seule des deux futures versions des containers Windows. Parce qu'on va voir qu'il y a deux sortes de containers qui vont être disponibles dans Windows Server. Donc déjà, les containers, ben, reprenons l'historique un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de containers, hein? C'est quelque chose qui est... Stanislas, qui est assez ancien comme technologie, mais assez récent dans son vrai usage dans l'industrie.
Oui, exactement. Alors en fait, le container est dans un état aujourd'hui de maturité qui peut faire penser à la maturité de machines virtuelles au début des années 2000. Donc, je ne sais pas si tu te souviens des débuts des années 2000, Pascal.
Très bien.
Mais très bien, tout à fait. c'était les prémices de VMware, les versions 1, 2, 3. Et donc, à l'époque, on a commencé à utiliser ce genre de techno. Je me souviens, nos clients, ils nous regardaient, ils disaient, mais comment ça? Vous faites tourner une machine sur une machine? C'était un petit peu la science-fiction, on était là, on disait, mais attendez, on cherchait à comprendre ce niveau d'abstraction qui était, je fais tourner un OS sur un autre OS, et j'ai un BIOS à l'intérieur virtuel, etc. Donc on était dans cet état d'un petit peu de découverte et de mauvaise compréhension par tout le monde, de dire, mais alors comment ce truc-là peut marcher? Et puis le début, donc ça, les gens commençaient un peu à comprendre le concept est à l'admettre en tout cas. Ouais. Et puis au bout de, donc dans un premier temps, ça a commencé à être utilisé vraiment pour faire du test, pour faire du dev, dans de la pré-production, mais c'était pas encore des choses assez matures pour aller réellement soutenir les workloads de la production. Et puis en quelques années, c'est devenu je dirais mainstream en anglais, mais classique et normal pour tout le monde d'utiliser effectivement de la virtualisation et tous les bénéfices qui étaient derrière. Donc personne maintenant, c'est assez rare que quelqu'un soit étonné de voir une machine tourner sur une autre machine, un OS tourner sur un autre OS. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les containers, on en est à peu près à ce niveau, entre guillemets, de maturité vis-à-vis de la globalité de l'industrie IT. La différence, c'est que la virtualisation a commencé réellement à arriver à mi, on va dire, quelques années, 5 ans maximum, à arriver réellement dans les productions. Les containers, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, le container, à la différence de machine virtuelle, c'est encore une autre technique, on va dire, de virtualisation. On n'est pas sur de la virtualisation de machines, c'est-à-dire on ne fait pas croire qu'on est sur une machine alors qu'on partage, plusieurs machines virtuelles partagent une même machine physique. On est plutôt sur ce qu'on pourrait qualifier de virtualisation d'OS, et donc on est un petit peu plus haut dans les couches, c'est-à-dire qu'on va avoir des applications, et on va faire croire à ces applications qu'elles sont sur qu'elles disposent de leur système d'exploitation dédié avec les librairies et les binaires associés derrière. Donc on va donner avec un container la perception d'un environnement qui est isolé et indépendant. Et le container, en fait, va être une unité de déploiement dite universelle, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et on va déclarer, on fait un package déclaratif d'une application, et on va la déployer effectivement, on va dire qu'on déploie un container. Donc cette approche comme ça va être effectivement super idéale pour tout ce qui est développement et test. Et l'usage des containers, aujourd'hui, en fait, il y a plein de mots-clés qui viennent se greffer autour du mot container. Si on devait résumer le mot container en un mot, enfin, ou son objectif, son usage, c'est d'être plus efficace. Et ce container, en fait, est un moyen aujourd'hui, en fait, de déployer rapidement des applications, de les déployer sur différentes plateformes. Donc ça peut être soit une application qui tourne sur un poste de développeur, mais ça peut être l'application qui est déployée sur un serveur sur site dans du cloud privé ou dans du cloud public. et ça rentre dans une. Donc cette portabilité, en fait, elle va permettre effectivement une utilisation très souple, à la fois par les équipes de dev et les équipes, on va dire, d'opérationnel ou des IT. Et ça sert vraiment dans des approches de type vraiment DevOps. Et aujourd'hui, s'il y a un type d'usage qui est totalement associé au conteneur, c'est ce qu'on appelle les microservices, qui sont en fait le découpage des applications entre guillemets anciennes, des anciennes générations d'applications web qui étaient vraiment assez monolithiques ou par grands blocs, la partie frontale, le middle, la base de données. Là, l'idée du microservice, c'est d'exploser en fait les applications en petits services, on va dire atomiques, et chaque service en fait a une fonctionnalité, répond à une fonctionnalité. Et du coup, l'avantage, c'est qu'une application est découpée en plein de microservices et qu'on va pouvoir faire scaler les microservices en fonction de leur usage. Je sais pas si je suis clair.
Si, tout à fait, oui. Tout à fait.
Et rappelons, alors pourquoi on parle de container ? Le container, à l'origine, c'est une unité de transport intermodal. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le transport de marchandises à l'échelle mondiale, toutes les marchandises, en fait, sont transportées dans des containers. Et les containers, en fait, il n'existe pas 10 000 formes et modèles de containers. Il doit en exister, je crois, trois principales, à ma connaissance, c'est-à-dire trois tailles de containers. Et l'invention du conteneur de transport, en fait, a révolutionné le transport des marchandises à l'échelle mondiale parce que ça a permis de faire des économies. Parce que du coup, la standardisation, en fait, du conteneur a permis derrière de créer et de faire une abstraction de la façon dont étaient transportés les conteneurs.
Bah oui, on a tous en tête les images de cargo immense rempli de containers sur des hauteurs impressionnantes, quoi.
Exactement.
Et puis
donc, en fait,
trains et camions qui portent tous les mêmes containers.
Voilà, on peut avoir les containers également transportés par grue, dans les avions, donc dans les remorques, etc. Et là, on est d'accord qu'on a plein de constructeurs qui sont différents derrière, on a plein de compagnies qui sont différentes en termes de socle. Mais le socle est, entre guillemets, est standardisé, c'est-à-dire que on sait qu'un camion pourra recevoir un container de telle taille. Après que le container ait été fabriqué par la société X, Y ou Z qui contienne telle chose, on s'en moque parce que l'interface, le socle est le même pour tout le monde. Voilà. Alors, pour revenir dans le monde de l'informatique et sortir du monde du transport, eh bien, les containers en informatique, eh bien, finalement, c'est vraiment la même idée derrière, c'est de pouvoir avoir son application, donc le contenu qui est embarqué dans un container, donc l'application, ses dépendances, voire ses données, et de pouvoir déplacer, en fait, cette enveloppe, ce conteneur logiciel, d'une plateforme à une autre. Donc, de déplacer par exemple de la plateforme qui est le poste de développement du développeur vers par exemple un serveur pour faire de l'intégration et du test, ou déplacer le tout par exemple sur une plateforme de cloud public telle que Azure par exemple.
Voilà.
Et l'idée, c'est de ne plus retrouver les problématiques et les frictions d'intégration qui existent aujourd'hui encore, qui sont que le développeur développe son application et la teste sur son PC avec son environnement à lui. Il donne le tout à l'intégration, ou travaille avec eux. C'est installé sur la production, la pré-production, et là, l'application ne marche pas aussi bien, ou ne marche pas même pas du tout. Et vient la traditionnelle phrase qu'on pourrait écrire sur du marbre, qui est c'est la phrase du développeur qui dit « Ah mais moi, ça marche sur mon poste. »
Et oui. Voilà. On a tous dit.
Et donc l'idée du conteneur, quand même, c'est comme c'est effectivement, on a une abstraction et qu'on a le même socle pour recevoir le conteneur partout, que le conteneur embarque l'applicatif, ses dépendances, c'est ça qui est important, c'est ses dépendances, voire ses données, eh bien on pourra déployer le conteneur logiciel du poste de développement vers le serveur ou le cloud. Et il n'y a pas de redéfinition des dépendances, etc., parce que c'est embarqué en fait dans le conteneur. Donc on ne devrait plus avoir ce truc « ça marche sur mon poste ». Voilà.
Donc,
et ça s'appuie en fait sur plein de mécanismes derrière. Tu peux peut-être nous détailler un petit peu ces mécanismes de virtualisation de processus.
C'est des choses qui sont pas vraiment nouvelles. Hein. Par exemple, au début des années 80, on connaissait déjà chroot sur Unix. qui permet de virtualiser le file system et donc de présenter un process qui est shrouté, chrouté. Donc le process qui est protégé de cette façon-là, en fait, a l'impression d'être tout seul sur son file system et voit son file system à lui. Alors qu'en fait, on lui a virtualisé son file system vers un sous-répertoire à l'intérieur du file system de Unix. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est la virtualisation du file system, de l'arborescence du stockage. Et puis, il y a eu d'autres mécanismes qui sont apparus par la suite, notamment LXC, qui se prononce peut-être LXI dans les milieux autorisés. Donc, c'est un truc qui est apparu sous Linux dans les années 2008, à peu près. Et ça utilise d'autres technos comme les C-groupes. Les C-groupes, c'est ce qui permet de virtualiser des ressources comme la CPU, la mémoire, le réseau, je crois aussi. Et donc c'est pareil, donc voilà, on va virtualiser ces composants là, le file system, la CPU, la mémoire, etc., les namespaces, dans ces containers, ces LXC, et Docker en fait qui est le principal actuellement le principal fournisseur de technologies de containers, a simplifié l'utilisation de tout ça, et notamment des containers LXC sur Linux, pour en faire quelque chose de gérable très simplement. Donc si on considère une architecture Linux, puisque ça vient de là à l'origine, Docker en tout cas, on a le noyau Linux, l'OS de base qui est partagé entre tous les containers. Tous les containers vont utiliser le même noyau. Par contre, ils se verront virtualiser tout ce qui est au-dessus. Le file system, la RAM, le CPU, etc. Donc, contrairement à une virtualisation de machine comme on connaît dans les machines virtuelles, on partage le même OS. Et donc ça va faire une grosse différence, en fait, en termes de densité de machines, de containers par rapport à la densité qu'on peut avoir avec des machines virtuelles. Là, on pourra avoir quelques machines virtuelles ou quelques dizaines de machines virtuelles sur une machine physique. On pourra avoir un nombre nettement plus conséquent de containers. Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais ça peut être conséquent. On peut imaginer au moins multiplier par deux le nombre de containers qu'on peut avoir par rapport à un nombre de machines virtuelles. Surtout que dans un container, on ne va pas exécuter 36 applications en même temps. En général, on va faire, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de microservices, hein, on va faire des containers par application. Donc on aura dedans une application, ses dépendances, etc. On n'aura pas 36 applications. Donc le fait qu'on était obligé dans des machines virtuelles d'embarquer en même temps un OS en plus de l'OS hôte faisait qu'on perdait pas mal de ressources. Ça a une conséquence également... plus technique, qui est que les containers sur un hôte donné, étant donné qu'ils utilisent les mêmes OS, on ne peut pas mélanger les OS.
Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à la virtualisation de machine.
Et oui.
Où la virtualisation de machine, je peux faire tourner une machine Linux, une machine Windows sur un hyperviseur Windows, ou une machine Linux, une machine Windows sur un hyperviseur Linux. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, on fait croire simplement qu'on a du matériel physique disponible. On virtualise du matériel. Alors que là, ici, effectivement, comme on partage l'OS qui est sous-jacent, ça veut dire que le container sera un container avec une application Linux tournera sur un OS Linux sous-jacent. Donc on ne pourra pas avoir un container Windows qui tourne sur un serveur de container Linux, c'est ça ?
Exactement. Dans un container sur une machine Linux, on aura le même noyau Linux que le hôte qui héberge les containers. Ça sera pareil, évidemment, dans Windows Server 2016, on ne pourra exécuter que des conteneurs Windows, qui utiliseront le même noyau Windows que le serveur.
Donc ça, je pense que c'est un point qui est super important à retenir, effectivement, c'est que les conteneurs qu'on exécute sont liés au système d'exploitation de la machine host de conteneurs, en dessous.
Donc, on a parlé de Docker, donc Docker qui existe depuis 2013, Et Docker, Stan, c'est constitué de différents clients, et comment c'est architecturé de façon très basique ?
Alors, de façon très basique, en gros, on a une machine hôte qui a un moteur Docker, donc on pourrait appeler ça un hyperviseur, mais c'est pas un hyperviseur, mais c'est un moteur Docker, d'accord ? Et puis, pour interagir avec ce moteur Docker, on a un client, voilà, donc client qui est... À l'origine était donc la ligne de commande Docker disponible uniquement sur Unix. Linux. Et désormais, cette ligne de commande Docker existe également sur Windows. Donc on peut installer le client Docker, le client d'administration Docker, sur une machine Windows. Et puis en fait, Docker s'administre. Donc cette architecture client-serveur, en fait, entre le client Docker et le serveur Docker, c'est du REST qu'on va faire entre les deux. REST dans du HTTP quand on est sur des espaces, on va dire, isolés, ou du HTTPS quand on passe vers Internet via des fournisseurs de cloud public, par exemple. Donc, pour manipuler les containers, il existe une quarantaine de commandes à peu près dans le monde Docker, avec derrière pas mal de commutateurs et de switch. On est issu du monde Linux, donc c'est très ligne de commande, hein, tu t'en doutes bien. Donc la ligne de commande, j'ai dit, elle est sur Windows, sur Windows et Linux. Elle est également disponible sur Macintosh. Et ce moteur Docker, ce qu'on appelle le Docker Host, hein, il s'installe sur une distribution Linux. Alors il en existe, diverses et variées, hein, les plus connues étant CoreOS, Ubuntu ou Red Hat. Voilà. Et cette machine Linux, elle peut être une machine physique ou une machine virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut même faire tourner un host Docker, par exemple, dans Azure.
Donc maintenant, un container, on voit bien on voit à peu près comment, on imagine comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans et à partir de quoi on construit nos containers parce qu'on ne va pas à la main installer nos applications. De quoi on part, quoi.
Alors en fait, il faut voir une application en container dans Docker comme. Les containers comme en fait un ensemble de couches qu'on va appeler des layers. Une application totale sera composée d'un ensemble d'images et donc un ensemble de couches. On va prendre un cas simple. Imagine un blog WordPress, par exemple. D'accord ? Donc un blog WordPress, il tourne sur un système d'exploitation, il a besoin d'un serveur web, il a besoin d'une base de données, par exemple MySQL, et il a besoin d'un framework applicatif, qui en l'occurrence est PHP. Ok ?
Oui.
Donc, si je devais faire un container, si je devais mettre WordPress sous la forme de container, la première chose, c'est toujours de commencer par une image de base, c'est-à-dire en gros le système d'exploitation. Donc, on va partir ici, par exemple, pour faire notre WordPress, on va dire, je vais partir d'une image, Ubuntu, par exemple. D'accord ? Donc, j'aurai une première image de base qui sera de l'Ubuntu.
Sachant qu'on a dit que le noyau lui-même, ce sera celui de l'OS. Hein.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, un Docker host qui tourne sur CoreOS et dire, moi, j'ai envie quand même de faire tourner mon container sur de l'Ubuntu. Donc, j'aurai une image, un premier container Ubuntu qui, lui, prendra les différences qui manquent entre CoreOS et Ubuntu. D'accord ? Ensuite, j'ai besoin pour mon application WordPress à mettre en container, j'ai besoin d'un service web. Donc je vais faire une image qui contiendra Apache. D'accord ?
Ouais.
Donc ça c'est ma deuxième couche. Et puis j'ai besoin de PHP, donc je vais rajouter une couche PHP, et j'aurai un autre image PHP. Et puis j'aurai encore une troisième image qui sera celle de MySQL. Donc j'ai fait mes couches comme ça avec donc le kernel qui est fourni par le Docker Host, une image, donc une première couche qui est Ubuntu, une deuxième couche qui est Apache, une troisième couche qui est PHP, une quatrième couche qui est MySQL, et une cinquième couche qui sera WordPress.
Voilà, qui sera l'application, effectivement.
Voilà. Donc l'intérêt de fonctionner comme ça et de découper finalement par couche l'ensemble d'une application, c'est que du coup, la mise à jour d'une couche ne va pas impacter tout l'ensemble. Et du coup, ça devient très simple de faire des tests en remplaçant les couches. Par exemple, imagine que tu aies ton application WordPress, tu te dises « maintenant je veux la déployer, je veux déployer une nouvelle version de PHP, mais je ne suis pas certain que mon application WordPress complète devienne marcher. » Simplement, en fait, tu vas remplacer la couche PHP, mettons PHP 5, par la couche PHP 5.5. Et tu n'as pas à refaire une image complète et à tout redéployer. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment d'être super dynamique pour pouvoir faire ce genre de choses.
Et en même temps, on a une... Quand on parle d'infrastructure as code et de DevOps et tout ça, on est en plein dedans, là. Puisque quand on dit on rajoute une couche, on en rajoute en telle application ou tel composant, etc., tout ça, ce sont des opérations qui sont scriptables. Puisque dans le monde Linux dont tu parlais avec Ubuntu, etc., ça sera une ligne de commande du type Et ben, pour ajouter cette couche-là, ben, simplement, ce que je fais, c'est apt-get install Apache.
Exactement. Et du coup, pour Docker, il y a ce qu'on appelle Dockerfile. Et Dockerfile, ça sert réellement à ça. Tu peux peut-être nous déclarer.
Ben, le Dockerfile, c'est ça. C'est un fichier qui va contenir l'ensemble des commandes à exécuter pour passer d'une... Pour faire une nouvelle couche. Et à partir de ce Dockerfile, de ce fichier texte qui contient ces commandes-là, on va construire la couche suivante, qui va être le delta, qui va être le résultat de ces commandes-là, et donc stocké sous la forme d'un file system qui sera le delta par rapport au file system de la couche d'avant, de la couche précédente. Donc comme commande, on va pouvoir avoir les commandes qu'on veut exécuter lors de la transformation, et puis également les commandes qu'on exécutera lors de l'exécution du container si on ne modifie pas ces commandes-là, si on ne spécifie pas des commandes qu'on veut exécuter. Donc par exemple, là, en l'occurrence, ben, on dira, ben, au démarrage, il faut démarrer le serveur Apache. Si on ne l'a pas mis sous forme de démon, ben, paf, on pourra le démarrer au démarrage.
Exactement. Maintenant, toute la beauté des containers, c'est également le nombre d'images et les référentiels qu'on va utiliser pour stocker toutes ces images. Le but d'une image, ce n'est pas d'être utilisé unitairement par un développeur, éventuellement d'être mis en prod, c'est réellement d'être utilisé, réutilisé, stocké, référencé, indexé. Donc il existe, pour stocker en fait les images de conteneurs, Docker a quelque chose qui s'appelle des registries. D'accord ? Donc ces registries donc, sont des systèmes de stockage pour les images de conteneurs. Il en existe des publics. Donc Docker Hub, typiquement, c'est le référentiel public qui contient une registrie publique. Et puis on peut également avoir des registries qui sont privées. Donc ça, pour les organisations, c'est intéressant. C'est un espace où sont stockées l'ensemble de leurs images, qui est privé, et qui est donc consommable par l'ensemble des développeurs et l'ensemble des IT de l'entreprise. Donc l'intérêt d'un espace de stockage pour les containers, c'est d'abord de bien les référencer, de bien les indexer, pour rechercher à l'intérieur, et éventuellement d'utiliser également ce qu'on appelle de l'automatic build, donc là, infrastructure as code, ça va bien avec aussi, c'est que les développeurs, même s'ils sont très DevOps aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de faire, chaque fois qu'ils font une modification de leur code et qu'ils le commitent dans le source dépôt, d'aller recréer une nouvelle image à chaque fois pour la retester, etc. L'intérêt des choses telles que le Docker Hub, c'est d'avoir cette construction automatique, c'est de pouvoir être, de lier en fait, de se lier à un dépôt de code comme GitHub ou Bitbucket, et automatiquement, chaque fois qu'il y a un code qui est commité par le développeur, il y a une construction automatique d'une nouvelle image Docker prêt à être utilisée.
Et ça, c'est magique, parce qu'on est certain que celui qui va récupérer le container produit de ce process-là, ben, il fonctionnera, quoi, son container.
Exactement.
Puisqu'il contient l'application du développeur, mais aussi toutes ses dépendances, telles qu'il l'a testé lui-même. Donc, voilà.
Je crois que effectivement, c'est ça qui est à retenir des containers, c'est que ça embarque les dépendances. La problématique historique, c'est toujours quand on installe une application, elle a besoin de quoi pour fonctionner ? C'est la grosse question. Elle a besoin de quoi pour fonctionner ? Ouais. Et qu'est-ce qui manque pour pouvoir la faire fonctionner depuis tel OS ou telle version ? Voilà.
Alors, exemple concret que j'utilise moi-même, c'est Azure CLI. Azure CLI, c'est la ligne de commande Azure pour les OS non Windows, donc en l'occurrence pour Linux. Et donc pour installer Azure CLI, donc la ligne de commande Azure sur un Unix, sur un Ubuntu par exemple, bah il faut installer les dépendances, il faut installer Node.js, et puis je ne sais plus quel composant pour récupérer, pour installer ensuite Azure CLI, et ensuite il faut installer Azure CLI. C'est pas quelque chose que je sais faire naturellement, ça. Par contre, taper une commande, une seule commande qui est en gros Docker run Microsoft / Azure CLI, ça suffit, c'est tout ce qu'il me suffit de faire pour, sur une nouvelle machine Linux par exemple, récupérer depuis le hub Docker le container, l'image du container qui contient Azure CLI, qui a été publié par Microsoft, et puis l'exécuter, l'instancier sur mon poste, l'exécuter, et paf, j'ai ma ligne de commande Azure qui est disponible. Et ça, c'est magique.
Ouais. Et je disais tout à l'heure, je parlais de Docker Hub qui intègre une registrie publique. Donc cette registrie publique permet en fait de mettre à disposition n'importe qui, même toi, tu peux faire ta propre image et la mettre à la disposition du public pour réutilisation par d'autres personnes de ton image. Et ce que font en fait tous les éditeurs ou les communautés Linux officielles, qu'elles font des images officielles par rapport à leur à leur distribution, et c'est la même chose pour également les éditeurs de, ou les communautés tiers qui font des logiciels comme... on est très dans le monde de l'open source, hein, donc les WordPress, les Drupal ou autres. C'est très facile de trouver directement des images qui sont déjà prêtes de telle ou telle version de l'applicatif. Donc ça permet comme ça très simplement effectivement de démarrer en fait une instance d'une application avec toutes les bonnes dépendances, etc. Et on a un système, comme on est sur quelque chose de public, on a également un système de notation des images du point de vue de leur qualité par les utilisateurs qui les consomment.
Et oui. Donc, en résumé, on a un moteur Docker, on a un client Docker, on a ce qu'ils appellent un registry, donc le Docker Hub, et également une version privée de ce registry pour avoir un stockage privé de vos images. Et il y a également d'autres composants qui permettent de fonctionner en prod, hein, de façon un petit peu plus confortable que simplement manipuler à la main vos images et vos containers. Puisque quand il s'agit de passer en prod, de passer à l'échelle notamment, ben il faut quand même de l'outillage, de l'orchestration de containers. Et il y a des composants proposés par Docker, mais également proposés par d'autres fournisseurs. Donc Docker propose notamment Docker Compose. C'est un composant qui permet de faire des applications multi-containers. Et là, étant donné que maintenant, avec nos containers Windows, on apporte un petit peu de nouveau dans ce monde des containers, on pourrait imaginer avec Docker Compose des applications qui combinent à la fois des containers Linux et des containers Windows. Je sais pas, un frontal Apache qui attaque une base de données SQL ou réciproquement. Enfin. Docker Swarm également, un autre composant qui permet de faire du clustering et donc de la montée en charge d'ensemble de containers qui vont s'exécuter sur plusieurs serveurs. Mais il y a également d'autres fournisseurs, Stan, qui proposent des solutions d'orchestration un petit peu plus évoluées, un petit peu plus prod.
Docker Swarm, c'est la prod quand même.
Oui.
Google est très impliqué sur une solution qui s'appelle, alors j'ai toujours du mal à le dire, c'est Kubernetes. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Je pense.
J'espère. Donc Kubernetes, effectivement, ça permet de gérer des clusters de containers Linux comme un seul système, en fait. Hein, et donc, ça permet effectivement d'accélérer les opérations. Donc, ils sont très, très impliqués là-dessus, Google, sur Kubernetes. Et c'est pas mal utilisé. On a également quelque chose qui s'appelle Mesos. Mesos, qui était également un orchestrateur. Et qui est, je crois notamment, si je dis pas de bêtises, je me demande si Mesos, s'il doit être utilisé par des grosses compagnies comme Twitter notamment. Il est utilisé par Airbnb et je crois qu'il y a Apple également qui l'utilise pas mal.
Spotify utilise Mesos aussi ou parce qu'ils utilisent beaucoup les containers mais en prod.
C'est possible, je connais pas la liste de tous les clients Mesos, en fait, pour être tout à fait précis.
Ouais.
Je crois qu'il y avait une liste qui était donnée, tu m'as dit, il y a une liste sur le site de Mesos. Hein. Tu cherchais donc Spotify, tu m'as dit ?
Ouais.
Spotify. Écoute, je n'ai pas Spotify dans la liste, mais ma liste est peut-être vieille. Il y a Netflix, utilise notamment Mesos.
Ah.
Donc Twitter c'est le plus connu souvent, et Viadeo l'utilise également, ou l'utilisait au moins quand ça a été référencé. Apple, il y a le CERN également qui l'utilise. Airbnb, bon, c'est, ça fait partie de choses bien connues aujourd'hui. Groupon utilise également Mesos. Et donc voilà, donc celle-là aussi, Mesos, est une solution open source de gestion de clusters pour les containers notamment. Donc voilà, on a différentes approches qui existent. Alors pourquoi on a un petit peu insisté peut-être sur Mesos ? C'est parce qu'en fait, on a annoncé des partenariats entre Microsoft et Mesos, parce qu'effectivement, on va devoir également orchestrer et gérer des clusters de containers avec des containers Windows également. Et donc c'est probablement pour ça qu'on travaille. Donc tu vois, typiquement, je disais Apple tout à l'heure, a priori, c'était en avril 2015 où il avait été annoncé que Siri, tu sais, la reconnaissance oui. Vocale, etc., derrière, en fait, utilisait leur propre implémentation du framework Mesos pour faire ce genre de choses. Voilà. C'est très utilisé par les startups qui utilisent du microservice, et on revient sur la boucle de ce truc-là. Voilà.
Et donc, Microsoft n'est pas en reste, puisque depuis maintenant plus d'un an, je crois, Docker est présent dans le marketplace d'Azure, dans Azure,
ouais.
sous différentes formes.
En fait, devant l'intérêt général des containers et sur le fait qu'il n'y ait pas à débattre sur la souplesse que ça peut apporter. Donc c'est quelque part, c'est quand même une belle révolution, parce que Docker, c'est une société qui est très 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 jeune. Parce que là, on parle de 2 ans maximum, quoi. Et aujourd'hui, ils ont réussi à fédérer autour d'eux quasiment toute l'industrie et beaucoup d'entreprises du web. Donc on ne pouvait pas trop passer à côté, effectivement. Et comme dans, basiquement avec Azure, ce qu'on vend principalement, c'est de la ressource, on ne pouvait pas se permettre de ne pas travailler avec ces technos-là. Donc on a fait pas mal de partenariats avec Docker, on a fait pas mal d'annonces. Pour dire, il y a eu même une DockerCon là, récemment, cette année, où on est intervenu dans le keynote. Enfin, Marc Russinovich, le CTO d'Azure, est intervenu dans le keynote. Il a fait des démonstrations de ce qu'on fait. Donc, il y a plein de choses qui ont été faites. Donc, on a des extensions Docker faites par Microsoft pour les VM Linux dans Azure. C'est-à-dire qu'avec cette extension, on transforme une VM Linux en Docker Host.
Voilà.
On a également donc l'arrivée des containers Windows et des containers Hyper-V. Et l'intégration de la ligne de commande Docker directement dans Windows. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manipuler des containers avec les outils que les utilisateurs de Docker connaissent, c'est-à-dire les lignes de commande. Donc, on va pouvoir instancier des containers Windows ou des containers Linux depuis la ligne de commande Docker. On annonce également le support de Swarm et de Docker Compose dans Azure. On a également intégré directement des outils, intégré Docker dans Visual Studio. Donc on a des add-ons qui permettent directement depuis Visual Studio de générer ou de déployer dans un container l'application. Et puis je te parlais tout à l'heure de repository pour les images de containers. Donc on a effectivement le Docker Hub qui est le repository public de Docker, mais pour les organisations qui veulent avoir un repository privé, Docker vend sous la forme d'un service, quelque chose qui s'appelle la DTR, la Docker Trusted Registry. Et la DTR, en fait, est un repository qui est privé pour les organisations, et ça, on a dans la marketplace d'Azure désormais la possibilité d'instancier une Docker Trusted Registry directement depuis le marketplace d'Azure, et c'est fourni ça par Docker et vendu par Docker. Et puis si on est toujours dans le marketplace d'Azure, on peut déployer directement une application depuis le marketplace, une application sous la forme de conteneur. Donc il y a plusieurs exemples, il y a du Jenkins, il y a du MySQL, il y a
du WordPress,
du Redis, ouais, il y a du MySQL, il y a du WordPress, ouais. Et donc si on déploie, et donc ça, on est vraiment on a une zone du marketplace qui s'appelle les container apps. Et donc le container apps peut être déployé directement depuis le marketplace. En sous-jacent derrière, ça va déployer, quand on choisit de déployer un container dans le marketplace d'Azure, ça va déployer un Docker host derrière et le container. Mais c'est fait de manière complètement industrialisée, automatisée, l'utilisateur ne voit que le déploiement d'un container. Voilà, ça fait pas mal de choses qui sont faites. Donc, extension des API et des outils Docker pour supporter container Windows, le client Docker sur Windows, l'extension Docker pour les VM Linux, le support Docker Compose, les outils Visual Studio, et puis ces fameux containers dans le marketplace d'Azure. Donc, on voit que le partenariat, il est réellement pas neutre. Et donc, on va dire, la gestion des containers, même dans Windows Server 2016, en fait, est assurée par Docker, par du code Docker, qui est le même code que le code le même source, entre guillemets, que le source sous Unix, ce qui va permettre cette unicité, effectivement, des containers.
Donc, si on en vient à Windows Server 2016 et sa Technical Preview 3 qui est sortie au mois d'août, donc on a une première preview des containers Windows dans leur première forme, ce qu'on appelle les Windows Server Containers. Il y aura une deuxième forme qui arrivera probablement dans la prochaine Technical Preview, qui seront les Hyper-V containers, qui apporteront en gros plus d'isolation, car on se basera sur l'isolation fournie par Hyper-V et donc le matériel au niveau des containers. Donc ce sera destiné à des environnements où on aura des niveaux de confiance différents entre les containers, typiquement les environnements multilocataires, multi-tenant, qui nécessitent un petit peu plus d'isolation. Pour l'instant, on n'a que la première mouture, la première sorte de container, les Windows Server Containers, donc qui ont une isolation typique de la sécurité des process Windows, hein, une isolation de process et une isolation liée à la virtualisation des ressources comme le file system, etc. Donc on a deux possibilités pour gérer ces containers dans Windows. Une première qui est native à Windows et qui consiste à utiliser PowerShell et un provider WMI. Et puis une deuxième qui est Docker et qui sur laquelle on a travaillé vraiment en collaboration avec Docker, puisque c'est leur source, comme tu le disais, hein, c'est leur développement. Donc on a le service Docker et la ligne de commande Docker directement disponible pour gérer nos containers Windows. De la même façon que la ligne de commande Linux. Hein. On a fourni avec la TP3 de Windows Server 2016 donc une première image pour servir de base à tous les containers Windows qu'on a besoin de construire. Donc une image basée sur Windows Server 2016 en mode core et qui nous permet donc de partir de cette première image pour construire, grâce à un mécanisme de couche dont tu parlais tout à l'heure, nos images de containers Windows sur Windows Server.
C'est important de préciser, effectivement, tu as parlé de Server Core, on parlera de Nano aussi, c'est de dire que les applications qui tournent dans des containers ne sont pas des implications entre guillemets graphiques, dans le sens où c'est pas interactif, tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
On est sur de l'application qui tourne côté serveur, hein, et donc...
Oui, ce sera soit du core, soit du nano-serveur...
Voilà, c'est pas un office comme ça qu'on déploie comme ça, par exemple. Enfin, quelque chose de graphique, hein, pour être tout à fait précis. Donc, c'est du conteneur en ligne de commande également, exactement comme le conteneur Linux.
Donc, on va retrouver exactement le même principe que ce dont on a parlé depuis le début avec Docker, que l'on utilise Docker ou pas, ou qu'on utilise directement le PowerShell natif. Comment tester tout ceci avec la Technical Preview 3. Donc vous avez plusieurs moyens de le faire. Soit dans Azure, il y a un nouveau template, un nouveau modèle de machine virtuelle qui s'appelle Windows Server Container Preview.
C'est ça, hein.
Windows Server Container Preview. Donc là, c'est le plus simple. Vous allez dans Azure, vous prenez une nouvelle machine virtuelle, vous choisissez le modèle Windows Server Container Preview et vous avez un Windows Server 2016. Technical Preview 3 en mode core avec tout qui est installé pour être un hôte de container.
Ouais, c'est prêt à l'usage. Sûrement, cette image elle est géniale parce qu'elle se déploie en quelques minutes. Et elle permet directement d'entrer et de jouer avec les lignes de commande, soit Docker, soit PowerShell, pour manipuler sans avoir à préparer tous les prérequis.
Alors sinon, si vous voulez l'installer sur des machines virtuelles que vous maîtrisez chez vous ou des machines physiques, il y a une page qui s'appelle Windows Container sur le site MSDN, dont je mettrai le lien également sur la page, qui contient exactement toutes les marches à suivre dans tous les cas. Donc soit vous voulez... il y a les cas Azure, mais il y a également le cas où vous avez un Hyper-V, vous voulez construire une machine virtuelle, et puis le troisième cas qui est... vous avez déjà un TP3 installé, un Windows Server 2016 TP3 installé, vous voulez ajouter dessus la fonctionnalité des containers. Donc dans ces deux derniers cas... Il y a différentes étapes. Pour l'instant, on n'est pas encore dans un état fini de Windows Server 2016, donc les opérations sont un petit peu manuelles. Mais on vous fournit des scripts complets pour monter de façon complètement automatique la fonctionnalité. Parce qu'en fait, il faut installer la fonctionnalité containers, il faut installer un switch virtuel de type NAT pour vos containers. Il faut également récupérer et installer la première image de base de Windows Server Core, ou nano-serveurs dans le futur. Et il faut démarrer tout ça. Et donc, toutes ces opérations-là sont plus simples à faire avec les scripts qui vous ont fournis directement dans ces pages-là. La dernière opération que j'ai oubliée, c'est installer les composants Docker, évidemment, pour ajouter le service et la ligne de commande Docker pour être compatible. Donc, une fois que c'est installé, on peut jouer... soit avec Docker, soit avec PowerShell, démarrer vos containers, modifier les images, réécrire les images après qu'on l'a modifié pendant l'exécution du conteneur, etc. Et c'est plutôt convaincant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les conteneurs, non Stan?
Bah oui, parce que là on est quand même dans un podcast, on va pas passer des heures, c'est pas une formation sur les conteneurs, mais
exactement.
Je pense que c'est il y a ça, je pense que si on doit retenir quelques éléments des conteneurs, c'est un, microservice égale conteneur. Microservice égale l'avenir des applications dans le web. Container égale virtualisation d'OS, donc partage d'un même OS socle. Donc ça veut dire un container Windows tourne sur du Windows, un container Linux tourne sur une machine hôte Linux. Docker, c'est quasiment le standard du marché, hein, donc on s'est fortement associé avec eux, et on peut faire tourner du Docker sur du Windows et sur du Linux. Je pense que déjà avec ça, on a une première petite base sympa pour les containers.
Voilà, et comme typiquement, classiquement, on s'adresse principalement aux IT, sachez que si vous débutez sur le monde des containers, insistez un petit peu, il y a un déclic à avoir, il y a une compréhension à avoir, et puis une fois que vous avez bien saisi le fonctionnement de cette techno-là, c'est pas compliqué du tout. Sachez que vos développeurs en interne, en général dans vos entreprises, font déjà du Docker tous les jours, donc c'est intéressant de discuter avec eux également pour voir comment la mise en prod va se passer.
Ouais, et soyez également... pensez bien qu'on est aujourd'hui dans la phase de démarrage de tout ça. La maturité va arriver et les questions vont arriver également, c'est-à-dire comment on orchestre tout ça, comment on maintient à jour, comment on surveille, comment on sécurise. Ça, c'est effectivement des questions qui sont en train d'arriver de plus en plus parce que effectivement, il y a quelques sociétés qui ont de la production et du Docker, même un certain nombre, mais avec des containers, mais que globalement, on est au début de l'aventure des containers. Voilà.
Bon, et ben Stanislas, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous.
Écoute, c'est un plaisir.
On a passé pas mal de temps là, c'était un bel épisode, j'avoue.
C'est un bel épisode de rentrée après 2 mois de vacances. Je pense que dans le prochain épisode, on devrait retrouver l'ami Arnaud.
Exactement, qui va rentrer de ses vacances bien méritées également. Merci, bonne quinzaine et on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir.
À bientôt. Allez.